Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Les Bonnes Choses, c'est toujours un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, faite aujourd'hui par Pierre Hiverna, notre partenaire de la plateforme des cultures du goût alimentation générale. Cher Pierre, bonjour.
Bonjour Caroline.
Quelle cerise nous proposez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de bons petits plats et en plus, je vais vous faire voyager.
Ah ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, à tout à l'heure, 12h25. Cher Matteo Caranta, bonjour.
Bonjour Caroline.
La madeleine, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité. Alors, quelle personnalité avez-vous rencontré ?
Rien de moins que la soprano coloratour Sabine Devielle.
Mais non.
Mais oui.
Extraordinaire. À tout à l'heure, 12h15. Et pour notre plat du jour, nous avons choisi aujourd'hui de parler d'un sujet qui a révélé son ampleur lors du confinement au printemps dernier.
Les courses alimentaires sont de plus en plus chères. Faire un repas à midi et le soir pour toute la famille, c'est pour certaines familles quelque chose de difficile. Il y a ensuite un enjeu social. Vous savez, pour certains enfants, le repas du midi à la cantine, c'était le seul repas de la journée complet, équilibré.
J'ai rencontré des parents qui me disaient, nous avec mon mari on n'a rien mangé depuis 2 jours parce que là on arrive au bout et on fait en sorte que ça soit d'abord nos enfants qui mangent. Il faut savoir aussi que les prix ont flambé et donc pour les gens, là il y a une dame qui me disait ce matin, moi je rentre sur un marché, je ressors parce que j'ai rien pu acheter parce que tout est maintenant trop cher.
Tous les jours on voit des gens dans le besoin et bon là on en a une bonne cinquantaine. Mais ça peut monter vite fait jusqu'à 100 personnes par jour qui viennent nous réclamer de quoi nourrir leurs enfants et leurs familles. C'est dur parce qu'on se dit que c'est des enfants et des personnes avec des enfants chargés, ils sont laissés à l'abandon.
On mange aujourd'hui du poisson, des concombres, du pain et en dessert, j'imagine, un beignet. J'ai même plus faim. T'imagines ?
Depuis plusieurs mois, les associations d'aide alimentaire ont vu leur nombre de bénéficiaires bondir. Du Secours populaire au Resto du Cœur, environ 40% de plus de demandeurs ont afflué par rapport à l'année dernière, si bien qu'en avril, l'État a débloqué 39 millions d'euros de plus pour les associations, avant d'ajouter 55 millions pour aider à financer denrées et chèques alimentaires le 1er juillet. Quand on sait qu'en 2018, ils étaient près de 5 millions à avoir recours aux aides en France, on mesure la gravité et l'importance de ces besoins alimentaires aujourd'hui. C'est pourquoi certains en appellent à la création d'une sécurité sociale alimentaire. Sous quelle forme et à quelles conditions ? Le droit à bien manger pour tous, c'est le sujet des Bonnes Choses ce midi en compagnie de 2 invités. Éric Birloès, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation. Et en duplex de France Bleu Mayenne à Laval se trouve notre 2e invité, Guillaume Garot. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Fils et petit-fils d'agriculteurs, je crois que c'est important de le préciser. Mm-hmm. Vous avez été ministre délégué à l'agroalimentaire de 2012 à 2014. Vous êtes aujourd'hui député de Mayenne, conseiller départemental, président du Conseil national de l'alimentation, particulièrement impliqué dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, auquel vous avez consacré un rapport parlementaire qui a donné lieu à la loi contre le gaspillage alimentaire, qui a été votée en février 2016. Éric Birloès, on entendait ce petit montage sonore réalisé par Jean-Christophe Francis et je présentais les choses en les liant à ce qui s'est passé en ce début d'année. En quoi diriez-vous que le coronavirus et son corollaire, le confinement, ont-ils aggravé une situation de précarité alimentaire ou creusé même ce qu'on appelle habituellement la fracture alimentaire ?
Ah oui, je crois qu'on peut vraiment parler de fracture alimentaire. Vous le disiez tout à l'heure, avant la crise, on comptabilisait déjà plus de 5 millions de personnes qui avaient recours régulièrement ou occasionnellement à l'aide alimentaire, mais il faut bien voir qu'il y a peut-être 3 ou 4 millions de personnes dont la situation justifierait le recours à l'aide alimentaire et qui, pour tout un tas de raisons, n'y ont pas accès ou ne savent pas comment s'y prendre ou ne souhaitent pas, tout simplement, pour des questions de dignité, y avoir recours. Alors, ce qui s'est passé, en 2 mots, et ça, on l'a vu dès le tout début du confinement, ça a été d'abord la fermeture des cantines scolaires, ça a été évoqué tout à l'heure, la fermeture également des Restos U pour les étudiants pauvres qui, dans le même temps, perdaient leur job étudiant et quand les les gamins n'allaient plus à l'école, eh bien les parents eux-mêmes parallèlement perdaient leur travail. La fermeture des marchés, également des marchés dans lesquels on pouvait aller à la fin du marché glaner ou récupérer des produits à bas prix. Certaines structures également ont fermé d'aide alimentaire de manière totale ou de manière partielle. Et puis enfin, il y avait la nécessité de restreindre ces déplacements et donc on allait acheter dans des magasins de proximité qui ont des produits généralement plus chers. Donc tout ça s'est cumulé pour créer cet afflux 30, 40, 50% de personnes supplémentaires dans les files d'attente des structures, des Restos du Cœur, des épiceries solidaires, etc.
Ce qui fait que certaines associations se sont vite retrouvées débordées.
Oui, et d'autant plus que ces associations, c'est une des fragilités du système, eh bien elles sont animées par des salariés, mais surtout par des bénévoles, qui sont souvent des personnes dont la moyenne d'âge est élevée, et qui, étant plus vulnérables face au virus, pour certaines ont préféré rester chez elles.
Oui, c'est face à cette situation, Guillaume Garot, que sensible d'ailleurs à cette question, vous vous êtes élevé. D'abord, vous avez proposé en avril une aide départementale sous forme de bons alimentaires aux familles de collégiens en situation de précarité. Et puis, vous avez signé une tribune en mai dans un journal qui s'appelle Le Monde, dans laquelle vous disiez « Le moment est venu de mettre en place une véritable couverture alimentaire universelle pour garantir le droit de bien manger », un droit qu'il faut le rappeler est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Guillaume Garot.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai été bénévole aussi durant le confinement, parce que Éric Bielouez le rappelait, les Restos du Cœur, pour ne parler que d'eux, manquaient de leurs bénévoles traditionnels. Donc moi aussi j'ai donné le coup de main et moi aussi j'ai vu les files d'attente s'allonger semaine après semaine à mesure qu'on s'approchait de la fin du mois. Donc c'est cette expérience de terrain que moi je suis un élu ici ancré depuis longtemps en Mayenne. Et puis on a vu dans votre reportage, il y a aujourd'hui la difficulté d'être dans une alimentation suffisante et de qualité. Parce qu'il faut aussi ajouter une chose, il y a manqué d'alimentation en quantité, et c'est Martine Aubry, je crois, que dans votre reportage qui le soulignait.
Oui, oui, c'était Martine
Des gens
Aubry.
Qui se privent parce que on donne la priorité aux enfants. Et puis, il y a aussi le fait de bien manger, d'avoir accès à une alimentation saine. Et il y a peut-être un chiffre qu'il faut rappeler aussi pour éclairer ceux qui nous écoutent. Il y a une étude très intéressante qui a été faite en 2019 et qui montre qu'il y a deux fois plus d'enfants obèses dans les familles d'ouvriers que dans les familles de cadres. Donc, il y a un vrai problème dans notre pays sur la qualité de notre alimentation. Alors, c'est pas exactement le même sujet, mais je pense qu'il faut aussi lier l'ensemble de ces données. Et sur la question que vous vous posez très précisément, l'accès à l'alimentation, moi, j'en viens à la conclusion qu'aujourd'hui, en effet, il faudrait pouvoir inventer à l'échelle de notre pays une couverture alimentaire universelle. Parce que, en effet, c'est un droit fondamental, c'est inscrit dans notre Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, il faut reconnaître la faim comme un risque social, comme le chômage peut l'être. Et donc, si on sort d'une vision stigmatisante de la faim, de la pauvreté, eh bien, peut-être que ce sera la première étape nécessaire à construire cette couverture alimentaire universelle. Aujourd'hui, on est au stade des idées, il y a des chercheurs qui se penchent là-dessus, mais je pense qu'il faut passer cette étape de la construction, voir comment, à l'échelle d'un pays comme le nôtre, et avec des partenaires aussi différents que l'État, les collectivités locales et les associations sur le terrain, on peut construire ce nouveau filet de sécurité sociale qui est pas quelque chose de déresponsabilisant pour les individus, parce que cette petite musique-là, on l'entend trop souvent, au contraire, qui est la marque d'une civilisation avancée, garantir à chacun ce droit fondamental à être nourri et bien nourri.
On va rentrer, Guillaume Garot, dans les modalités, justement, quelle forme prendrait cette sécurité sociale de l'alimentation, mais j'aimerais entendre Éric Bielouez tout d'abord par rapport à ce que vous venez de dire.
Oui, ben effectivement, je crois que l'objectif premier, ça n'est pas seulement d'inscrire un droit à l'alimentation, mais de garantir ce véritable droit à l'alimentation qui serait un droit universel permettant à chacun, quel que soit son revenu, quelle que soit sa situation, d'avoir accès à une alimentation, comme l'a dit Guillaume Garot, suffisante en quantité, mais aussi en qualité. Et le terme de qualité, aujourd'hui, on voit bien que c'est une notion qui a beaucoup de dimensions. C'est pas que la qualité sanitaire, évidemment, c'est très important, la sécurité sanitaire, la qualité gustative, la qualité nutritionnelle, mais aujourd'hui, on parle de qualité environnementale, on parle du caractère éthique ou équitable des produits, du bien-être animal, et tout ça doit être pris en compte et doit être garanti par un dispositif qui permettrait vraiment ce droit à l'alimentation universelle.
Alors, Guillaume Garot, mettons les pieds dans le plat. Quelle forme prendrait, selon vous, ce dispositif? Qui paierait? Pour qui? Et pour manger quoi?
Posé comme ça, en effet, le sujet est vaste et la réponse n'est pas simple en deux mots. Je crois qu'il faut poser les choses brique après brique. L'objectif, c'est que personne ne soit privé d'être bien nourri dans notre pays, de pouvoir bien s'alimenter. Ça passe, à mon avis, d'abord par des tarifs sociaux, des tarifs solidaires dans les cantines scolaires. Ça, c'est la première chose. Et on voit trop d'inégalités entre les gamins qui mangent à la cantine et ceux qui n'y ont pas accès pour des raisons financières. Donc la première exigence qu'on doit poser avec les collectivités locales, c'est de garantir ces tarifs sociaux, ces tarifs solidaires à tous les enfants, donc toutes les familles.
À Paris, par exemple, les prix des repas à la cantine sont progressifs en fonction du revenu des parents. Ça n'est pas du tout le cas sur
Absolument.
Tout le territoire. Quand vous dites tarifs solidaires, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire rendre la cantine gratuite pour tous ou seulement pour les enfants de familles défavorisées, Guillaume Garot?
Alors, c'est pas forcément gratuite pour tous. Moi, je suis pas sur cette logique-là. Je me méfie de la gratuité. En revanche, je suis en effet, moi aussi, sur la progressivité, c'est-à-dire en fonction des revenus, qu'on puisse avoir un repas de qualité, le même repas, mais payé à des tarifs différents selon les revenus des familles. Donc, il faudrait commencer par là. Mais c'est déjà un travail énorme, parce que toutes les collectivités locales ne sont pas sur cette logique-là. Donc il faut, c'est une bataille culturelle à mener d'abord pour dire oui, il y a besoin de solidarité, oui, il y a besoin de tarifs sociaux dans les cantines scolaires aujourd'hui. Et je vous assure que c'est déjà un premier débat national qu'il faut engager. C'est la première brique, ça.
Premier volet, donc, la restauration collective.
Alors si on va un peu plus loin, c'est les écoles, les universités, les restos U. Ensuite, il y a la question des adultes. Là-dessus, il faut trouver des partenariats avec les associations de solidarité. Et il faut travailler avec elles, au plan national, mais aussi, il faut regarder localement comment les choses se font, de telle sorte que on garantisse l'accès à des paniers repas à l'ensemble de ceux qui en ont besoin sur un territoire. Donc ça, c'est un travail très fin à mener, mais je pense que c'est à notre portée. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que on peut assortir cette première initiative-là, ou action-là, d'une pérennisation de ce qui a été fait durant le confinement avec les bons alimentaires. Et les bons alimentaires ont été distribués à la fois par l'État, alors ça n'a pas pris exactement cette forme-là, et par des collectivités locales qui ont agi dans ce sens-là. Mais si on fait le recensement, un retour d'expérience de ce qu'on a fait dans le confinement, je suis convaincu qu'on peut trouver là les fils d'une politique tout à fait innovante en matière de lutte contre la précarité alimentaire. Donc la restauration collective pour les enfants, les étudiants et les plus âgés dans les établissements qui accueillent les plus anciens. Et puis donc sur la population adulte, alors là un travail très fin qu'il faut mener. Un, avec les associations de solidarité. Deux, avec les collectivités qui sont en charge de la solidarité, donc les communes et les départements, de telle sorte qu'on puisse pérenniser des initiatives qui avaient bien marché en temps de confinement.
Éric Birloez, peut-être la difficulté, et Guillaume Garot l'a évoqué à l'instant, vient-elle du fait qu'il faut quand même arriver à associer les individus à cette démarche pour éviter les injonctions, pour éviter que des collectivités territoriales, des politiques puissent dire à des individus ou à des familles, il faut que vous mangez ça, aujourd'hui on va vous donner un panier qui comporte 5 fruits, 5 légumes dans la journée, etc. Donc ça, c'est peut-être toute la difficulté de la fameuse démocratie alimentaire aussi à trouver.
Ben oui, effectivement, c'est bien que si... On veut provoquer des changements dans un sens favorable à la santé, à l'environnement, etc. Le changement des comportements alimentaires, imposer ne sert à rien. Et d'ailleurs, de quel droit on imposerait les choses? Donc je crois beaucoup plus à l'accompagnement progressif. C'est pourquoi je pense que on a à réfléchir, comme le fait Guillaume Garot, évidemment, sur des dispositifs d'aide alimentaire qui peuvent prendre des formes effectivement tout à fait variables. Mais je crois que c'est important à ces investissements matériels ou financiers de pouvoir associer un investissement immatériel très important qui est celui, non pas dans l'éducation nutritionnelle, mais dans la transmission d'une culture de l'alimentation. En prenant les gens là où ils sont, en commençant d'ailleurs par les écouter, car ils n'ont pas que des mauvaises pratiques alimentaires. Donc d'arriver à les associer à un cheminement et qui permettra donc non pas de leur imposer des injonctions, on sait que ça ne marche pas, mais de les faire participer à la définition de ce qu'ils souhaitent manger. C'est ça la véritable démocratie alimentaire.
Et c'est ce que nous verrons tout à l'heure après la Madeleine avec l'exemple de la Miam au centre social de Bordeaux-Nord. À tout de suite.
Si quelqu'un a le coronavirus et qu'il touche la cafetière, et ben après quelqu'un va, d'autre va attraper le coronavirus. Faut faire un peu attention. Ouais.
Et oui, Mathéo, faut faire un peu attention. D'ailleurs, vous avez enlevé votre masque, mais ça, c'est pour la bonne cause. C'est pour pouvoir présenter à nos auditrices et à nos auditeurs quelle est la personnalité que vous avez rencontrée pour la Madeleine du jour.
Je vous le disais, j'ai rencontré la chanteuse soprano Sabine Devielle, qui publie cette semaine un album avec le pianiste Alexandre Tarot, Chansons d'amour. Alors, il ne s'agit pas vraiment de chansons d'amour à proprement parler, mais le duo revient sur des mélodies françaises, parfois connues, souvent oubliées de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Forêt, Debussy, Ravel et Poulenc pour les citer. Par contre, la chanson, ça ne se mange pas. Alors, pour sa Madeleine, Sabine Devielle a retrouvé une douceur acidulée de son enfance normande.
Ma Madeleine, c'est la tarte au citron, mais sans la meringue. C'est un dessert qu'on mangeait chez moi quand j'étais petite et qui mettait tout le monde d'accord. J'ai trois sœurs et finalement, on n'était pas très difficile à table, mais quand on avait l'occasion de cuisiner ensemble un petit dessert ou un petit goûter, ça mettait tout le monde d'accord. Alors chez nous, mes deux parents étaient relativement dispo les mercredis et les week-ends puisque ma maman était institutrice. Mon papa éducateur spécialisé, mais bon, on a eu quand même pas mal de temps de famille et donc on connaissait les jours avec les petites journées du mercredi. Donc oui, c'était un moment pour disposer des outils sans se blesser, avoir la confiance de ses parents, être acteur de la vie de famille. Je trouvais ça vraiment chouette. Donc encore une fois, la tarte citron, c'était de notre responsabilité. Et on s'en régalait tous ensemble. C'est toujours avec le même plat, avec le même moule qu'on fait la tarte citron. Elle est jaune, mais tellement jaune que c'est un soleil. La pâte est très fine. La tarte est très plate, puisqu'on la fait donc sans meringue. Elle est luisante, elle est presque gluante, la tarte au citron. Et ouais, c'est presque un bonbon. La tarte au citron était extraite d'un livre de cuisine pour enfants que je ne sais qui nous avait offert. Et on cuisinait ensemble, donc les enfants savaient faire la pâte sablée et faire cette fameuse crème citronnée. Je pense qu'à l'époque, elle devait être plus sucrée que celle que je fais aujourd'hui. Mais voilà, c'est à la fois le goût que j'adore et puis surtout l'instant avec mes sœurs, tout ça. Donc oui, la tarte au citron, c'est un moment de famille que j'aime bien partager aujourd'hui avec ma famille à moi.
Merci beaucoup Mathéo pour cette Madeleine de Sabine Devielle et je précise que les dates de sa tournée sont sur la page de la Madeleine sur notre site franceculture.fr. Bien sûr, au nom de l'émission Les Bonnes Choses, on retrouve nos deux invités du jour, Éric Bialouez, ingénieur à Grenoble et sociologue de l'alimentation, et Guillaume Garot, qui est député de Mayenne, pour parler du droit à bien manger pour tous. On en était au volet éducatif et participatif. Et je crois, Guillaume Garot, qu'à ce propos, vous avez créé des ateliers citoyens consacrés à l'alimentation. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une action démocratique que j'ai voulu engager après avoir été réélu député en 2017. Parce que j'ai vu dans notre pays la crise démocratique avec l'abstention qui progresse d'élection en élection. Et je me suis posé la question, comment on fait pour combler ce fossé entre les citoyens et les élus ? Et je me suis dit, il faut le mieux possible associer les citoyens à la fabrication de la loi. C'est ce que j'ai fait en 2018 autour d'un sujet qui nous concerne tous dans notre vie quotidienne. L'alimentation, on est là pour en parler. Et je me suis dit, avec ceux qui sont intéressés dans mon département, eh bien, on va travailler ensemble à des amendements que je pourrais ensuite porter, moi, à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une loi qui s'appelle État généraux de l'alimentation. Alors, sur l'alimentation, ce qu'on avait fait en 2018, il y avait quatre sujets très importants que j'avais ensuite portés à l'Assemblée. Le premier, c'était comment on peut aider à garantir un revenu aux producteurs. Deux, comment on peut garantir une meilleure qualité de l'alimentation. Troisième axe sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est l'éducation à l'alimentation. Puis enfin, dernier point, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que pour moi, ça fait partie de l'enjeu alimentaire aujourd'hui.
Alors Guillaume Garot, de toute cette expérience de travail de terrain qui donne la parole aux citoyens, je voudrais vous proposer d'entendre un autre témoignage, de travail également de terrain, d'action démocratique qui se passe dans une autre région, plus précisément à Bordeaux-Nord, puisqu'au centre social de Bordeaux-Nord se trouve la MIAM, une maison toute particulière que coordonne Estelle Tsalavoutas, qui est avec nous par téléphone et que je salue. Bonjour Estelle Tsalavoutas.
Bonjour.
La MIAM, c'est une structure qui travaille autour de cette réflexion, comment fournir une alimentation durable et de qualité pour tous. Et elle accompagne un projet politique qui vise à réintroduire le droit à l'alimentation comme un droit fondamental de l'être humain. Autant dire que vous êtes en plein dans notre sujet. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que la MIAM et quelle est sa philosophie ?
Alors, avant de dire ce qu'est la MIAM, je vais me permettre de faire un petit détour et de dire ce qu'est un centre social. Puisque la Maison interculturelle de l'alimentation et des mangeurs est une émanation du Centre social Bordeaux-Nord, qui est un lieu de proximité qui a pour vocation d'animer la vie sociale locale et de soutenir les initiatives citoyennes. Et en fait, depuis 1963, date de sa création, l'alimentation a pris une place qui au début était envisagée comme un prétexte au vivre ensemble, au partage, à la rencontre, à la convivialité, et donc autour d'ateliers, cuisine, il y avait des partages de repas d'ici et d'ailleurs, hein, puisque nous sommes en milieu urbain et nous avons une France de tout horizon qui parcourt et qui vient au centre social. Puis très rapidement, ce qui s'est produit, c'est que des bénévoles au niveau de la structure, hein, qui a été créée elle-même par des habitants du quartier, se sont rendus compte que une partie de la population ne mangeait pas à sa faim. Donc, ces bénévoles se sont dit, nous, on va agir. Et il y a une banque alimentaire à côté. On va organiser une action de façon hebdomadaire pour soutenir des personnes en difficulté sociale et économique. Et c'est mis en place cette aide alimentaire qui devait être momentanée et qui, comme dans beaucoup de situations, c'est la même chose pour les Restos du Cœur et bien d'autres encore,
a
perduré dans le temps. Voilà.
Et donc, dans les différents types d'actions, il y a des ateliers de cuisine, il y a de la distribution alimentaire sous forme de paniers solidaires, un groupement d'achat et un laboratoire de transformation alimentaire. Autant d'actions très différentes. Et vous insistez, Estelle Tsalavoutas, sur cette notion d'échange entre bénéficiaires et bénévoles. Vous montrez que ce qui est important, c'est sortir de cette idée souvent reçue d'assistanat ou d'aide, parce que justement, ce qui est important, c'est que tout le monde participe à cette éducation à l'alimentation, à la mutualisation des expériences et des savoirs.
Absolument, parce que à un moment donné, l'alimentation, elle peut pas être uniquement régie par le ventre. Voilà, l'alimentation, elle a plusieurs fonctions dans notre société. Elle a une fonction culturelle, sociale, économique, environnementale, sanitaire. Donc, en effet, une des priorités, c'est que tout le monde puisse manger à sa faim, mais que tout le monde puisse non seulement manger à sa faim, et de la nourriture, de l'alimentation de qualité. Mais en même temps, comme quand il y a un caillou dans la chaussure, eh bien, il faut que tout le monde puisse participer à la résolution de ce problème. Et pour nous, ce qui est important, en tout cas dans les valeurs que l'on essaie de défendre à échelle locale, c'est comment, avec des habitants, la question ou les questions que pose l'alimentation sous ses différentes formes, comment tout un chacun va trouver une porte d'entrée et va venir participer finalement à la construction peut-être d'une société plus juste, en tout cas sur des questions alimentaires.
Eh bien, merci beaucoup Estelle Tsalavoutas. Tous les renseignements sont sur votre site, la MIAM, du Centre Social Bordeaux-Nord, qu'on mettra bien entendu sur notre page des bonnes choses sur franceculture.fr. Vous travaillez aussi en ce moment sur la question d'une mutuelle de l'alimentation. Donc, on voit bien que toutes ces réflexions sont à mener, sont à débattre dans notre société. C'était là un exemple de ce qu'on peut faire. Je remercie également beaucoup et Éric Birloez et Guillaume Garot d'avoir participé à cette émission qui n'est pas finie puisque maintenant on va retrouver la cerise sur le gâteau. Une cerise sur le gâteau qui nous emmène dans un voyage en Afrique, Pierre.
C'est ça, Caroline, si je vous dis Dorowa, Tieboudienne, Garba ou Poulet Yassa, ça parle à vos papilles?
Quelques mots, pas tous.
Alors, c'est normal, parce que la cuisine africaine, nous ne connaissons généralement que celle d'Afrique du Nord, avec tagine et couscous en tête. Alors, je voulais profiter d'une manifestation qui se déroulera au Carreau du Temple à Paris du 25 au 27 septembre et qui sera entièrement consacrée à la cuisine africaine pour vous mettre l'eau à la bouche. En commençant par justement dégommer un peu l'idée même d'une cuisine africaine, puisque l'on se doute bien qu'entre l'Afrique du Sud et le Mali, il y a à peu près autant de nuances qu'entre l'Italie et l'Allemagne. Pour bien voyager dans les recettes de ce continent, et si vous souhaitez mettre la main à la pâte, mon conseil est avant tout de vous munir de quelques outils de base, dont deux qui me semblent absolument essentiels. D'abord des épices, et notamment un poivre que nombre de chefs considèrent comme le meilleur du monde, le poivre de Penja, qui tient son nom du village camerounais où il est produit et grâce auquel il a obtenu la toute première indication géographique protégée, IGP, africaine. Il existe en noir et en blanc, et je trouve le blanc très subtil, avec des notes boisées, ambrées et musquées. Le noir est plus costaud, mais bon, voilà, vous ferez votre choix. Mon deuxième conseil, c'est de vous mettre rapidement à la sauce arachide, qui est répandue dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle s'appelle Mafé au Sénégal, c'est connu, Azindézi au Togo, Tigouadégué au Mali, Azinoussounou au Bénin, et peanut sauce dans les États anglophones comme le Ghana et le Nigeria. On la fait à partir de pâtes d'arachide et elle vous offre à la fois un succès garanti avec les enfants et une source de protéines, de fibres, de minéraux et de vitamines, sans compter sa richesse en bons gras pour votre santé cardiovasculaire. Alors pour commencer, vous pouvez vous lancer dans l'une des recettes les plus populaires qui nous vient du Sénégal, le poulet Yassa. Comme pas mal de plats en Afrique, on part souvent d'une marinade. Celle-ci est composée d'une demi-cuillère à soupe de moutarde, une gousse d'ail, un jus de citron et le fameux poivre. N'oubliez pas d'entailler votre poulet pour que la marinade lui fasse de l'effet et n'hésitez pas à lui coller ce traitement au minimum 12 heures. Le plus dur est fait. Il vous reste à faire griller des oignons et à cuire votre poulet. Je vous précise tout ça sur la page des bonnes choses.
Très bien.
Voilà, alors on fait 2000 km pour aller déguster en Côte d'Ivoire un garba qui se compose d'attiéké, c'est-à-dire de la semoule de manioc, de morceaux de thon frit avec tomates, oignons et piments frais hachés. C'est une recette pour les urbains d'Abidjan, donc très rapide à faire également. Un dessert peut-être pour finir, Caroline?
Avec plaisir.
Allez, on se refait encore 1500 km jusqu'au Nigeria pour manger des chin-chin, des succulentes croquettes à la noix muscade et à la vanille. Si vous hésitez encore à vous lancer, sachez que tous les chefs africains qui comptent, dont la fantastique béninoise Georgiania View qui est installée à Marseille, le Camerounais Alexandre Bella Ola qui est installé à Montreuil et à Paris, ou Pierre Siévé qui révisite ses origines au Garde-Temps, son restaurant parisien, seront présents au Carreau du Temple pour des ateliers et des démonstrations. Et en période de pandémie, ce serait dommage de se priver d'un tel voyage.
Un grand merci à vous, Pierre Hiverna. Toutes les informations, vous l'avez dit, sur la page des bonnes choses, dans la rubrique La cerise sur le gâteau. Et c'est sur ce même site franceculture.fr que vous pouvez réécouter et podcaster chacune de nos émissions à tout moment. Toute l'équipe, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Edouard Rubinstein, épaulé de Yann Mangui à France Bleu Mayenne dans Duplex, ont été notre invité aujourd'hui. Vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman. À dimanche prochain.